sur l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien raison, minuit et demi ici à Paris, 22h30, temps universel, 1h30 à Nairobi.
Afrique Soir.
Et c'est Zéphirin Kouadio qui vous informe. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir mon cher Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Au Kenya, face à la contestation, le président recule. William Ruto retire le projet de budget à l'origine des manifestations de mardi. Manifestations violemment réprimées, bilan au moins 23 morts. La commission kenyane des droits humains demande aux responsables de cette répression sanglante et meurtrière de rendre des comptes. Abdulaziz Al-Hassan, l'ancien patron de la police islamique de Tombouctou au Mali, reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Une avancée dans la lutte contre l'impunité pour les crimes commis au nord du Mali, selon le secrétaire général de la FIDH. Nous l'entendrons dans quelques instants. Une base de la SADC, la force régionale déployée dans l'est de la République démocratique du Congo, visée par une attaque à l'arme lourde. Bilan au moins 2 soldats sud-africains tués. C'est l'armée sud-africaine qui l'annonce ce mercredi dans un communiqué. Au total, 5 soldats sud-africains ont été tués depuis le début du déploiement de cette force régionale. Et puis le 29 juin, les Mauritaniens sont appelés aux urnes pour la présidentielle. Toute la semaine, nous donnons la parole au directeur de campagne et porte-parole des 7 candidats en lice. Aujourd'hui, parole à l'un des porte-parole du président candidat, Mohamed Ould Razouani. Oui, au Kenya, la loi de finances 2024 a donc été finalement retirée. Le président William Ruto l'a lui-même annoncé cet après-midi dans une allocution votée mardi par les parlementaires. Elle devait encore être signée par le chef de l'État. Depuis plus de 10 jours, cette loi qui prévoit de nouvelles taxes fait l'objet d'une forte contestation. Au moins 23 personnes sont mortes mardi dans la répression de manifestations selon des organisations de défense des droits humains. Cet après-midi, William Ruto a donc cédé à la pression de la rue. À Nairobi, le récit de Gaël Lalex.
C'est une grande victoire pour les manifestants qui demandaient un retrait total de la loi de finances. Elle avait déjà été bien amendée par les parlementaires la semaine dernière, mais ça n'avait pas suffi à satisfaire la rue. William Ruto joue donc la carte de l'apaisement. « Je gouverne un peuple et le peuple a parlé », a-t-il expliqué. Il promet maintenant un dialogue avec les jeunes, mais aussi les forces vives de la nation, comme la société civile, les organisations religieuses et les syndicats. Cette annonce est accueillie avec circonspection. C'est en tout cas ce qui transparaît sur les réseaux sociaux, principal forum des manifestants. Certains redoutent que le diable ne se cache dans les détails. En ne signant pas la loi, le président la renvoie au Parlement, qui doit acter son retrait, et certains redoutent un coup de bluff de William Ruto. D'autres trouvent que ce geste d'apaisement arrive un peu tard, au lendemain d'une répression policière sanglante. Hier, nous étions des criminels, et aujourd'hui les fils de la nation, ironise un manifestant joint par téléphone. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Et ce mercredi, toujours la commission kenyane des droits humains, par la voix de son directeur Davis Malombe, demande aux responsables de la répression meurtrière de cette mobilisation qualifiée d'historique de rendre des comptes. On l'écoute.
Les événements d'aujourd'hui nous rappellent terriblement des jours bien sombres que le Kenya a déjà connus. Et nous nous sommes déjà retrouvés dans cette situation. Aujourd'hui, notre président William Ruto est de nouveau candidat à des poursuites devant la Cour pénale internationale à cause des crimes contre l'humanité qui ont eu lieu hier dans notre pays. Monsieur Ruto a fait exécuter un massacre contre les manifestants pacifiques. La police a tiré sur des jeunes manifestants à l'extérieur du Parlement et les tueries se sont poursuivies durant la nuit. Des rapports nous informent que la police a tué des douzaines de personnes à Githurai entre 22h et 1h du matin, bien après que les manifestations aient été terminées. La responsabilité politique de ces événements revient à M. Ruto, même s'il n'était pas présent dans les rues. Il ne peut pas échapper à ses responsabilités.
Mon propos recueilli par Gaël Lalex. Abdulaziz Al-Hassan, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la Cour pénale internationale, l'ex-milicien dans Sardine, répondait de crimes commis en 2012 et 2013 lors de l'occupation du Nord Mali par les groupes djihadistes Acmi et Ansardine. Dans le système mis en place par les djihadistes, Abdulaziz Hassan était le chef de la police islamique à Tombouctou. Les précisions de Stéphanie Maupas.
Un chef de la police zélé qui faisait appliquer les sentences prononcées par le tribunal islamique à l'encontre de celles qui ne portaient pas le voile ou des couples adultères, à l'encontre de tous ceux qui ne respectaient pas les lois du nouveau pouvoir à Tombouctou, la charia version Ansardine et Acmi. Selon les témoignages retenus par les juges, Abdulaziz Alassane flagellait ses victimes ou ordonnait qu'elles soient fouettées. Certaines femmes ont été enfermées dans un distributeur habillé proche du siège de la banque qui était devenu son quartier général. Abdulaziz Alassane a donc été reconnu coupable de persécution pour des motifs religieux, coupable aussi de mutilation et de torture. Les juges l'ont néanmoins acquitté de viol, d'esclavage sexuel et de mariage forcé. Les magistrats ne nient pas l'existence de tels actes, mais en substance, ils estiment qu'il s'agissait de crimes de droit commun et qu'ils n'ont pas été commis dans le cadre politique des crimes contre l'humanité. Sur la forme, la lecture du jugement était lente, extrêmement décousue, vêtue d'un boubou jaune et d'un chaise blanc. Alassane a patiemment écouté le verdict sans manifester une quelconque émotion. Il va encore devoir attendre plusieurs semaines avant de connaître la sentence. Stéphanie Mopala et RFI.
Et je rappelle qu'il aura fallu 4 ans pour prononcer ce verdict. C'est en tout cas le second procès sur l'occupation de Tombouctou devant la Cour pénale internationale. Ahmed Al-Mahdi, agent de la Hezbollah, avait été condamné à 9 ans de prison pour crime de guerre après avoir plaidé coupable. Il n'était poursuivi que pour avoir participé à la destruction des mausolées de Tombouctou. Maître Drissa Traoré, le secrétaire général de la FIDH, salue la condamnation d'Alassane, qui constitue selon lui une avancée supplémentaire dans la lutte contre l'impunité pour les crimes qui ont été commis au nord du Mali. Il est au téléphone de Lisa Fabian.
Ce procès a permis quand même de montrer toutes les atrocités qui ont été commises, et surtout quand on regarde cette décision de la CPI qui quand même reconnaît Alassane coupable de crimes de guerre, de torture, d'atteinte à la dignité de la personne, de crimes contre l'humanité, d'autres traitements inhumains, etc. Ça montre que ce qu'une grande partie des défenseurs des droits de l'homme disaient n'était pas de simples accusations, mais que cela était fondé sur des faits réels.
On attend maintenant de connaître plus précisément la peine à laquelle Alassane sera condamné. Quelles sont vos attentes à ce sujet?
Nous espérons qu'on puisse avoir une condamnation à perpétuité, parce que nous espérons que les faits qui ont été commis au nord du Mali, notamment à Tombouctou en 2012 et en 2013, sont extrêmement graves, que la peine doit être à la hauteur de la souffrance des victimes. En ce qui concerne les réparations civiles, on espère en tout cas que les victimes pourront être restaurées dans leur dignité.
Est-ce que ce jugement est un soulagement pour les victimes?
Les victimes ont vécu ce procès avec beaucoup d'attente, surtout que le procès de Al-Mahdi n'avait pas concerné leur souffrance. Et les victimes sont soulagées pour l'essentiel. Je dis bien pour l'essentiel. Les victimes d'esclavage sexuel, les victimes de viol, par contre, ont un petit goût d'inachevé, parce qu'ils espéraient que leur souffrance puisse être reconnue par la Cour pénale internationale, qui malheureusement a acquitté Alassane des crimes de mariage forcé, d'esclavage sexuel et de viol.
Est-ce que vous pensez que la justice devrait aller encore plus loin?
Il y a beaucoup d'autres acteurs des crimes qui sont commis au nord du Mali lors de l'occupation. La procédure devait continuer pour permettre en tout cas que l'ensemble des principaux acteurs puissent être recherchés et retrouvés, parce que nous aurons souhaité que justice se fasse au Mali même. Nous avons permis aux victimes d'être entendues devant les juges d'instruction qui ont été désignés. Malheureusement, tout stand, rien ne bouge, parce que nous pensons qu'il n'y a pas de volonté politique manifeste de donner les moyens et de permettre à la justice au Mali d'avancer sur ces crimes graves qui ont été commis au nord du Mali.
Maître Drissa Traoré, le secrétaire général de la FIDH, répondait aux questions de Lisa Fabian.
Goma, 98 FM.
En République démocratique du Congo, au moins 2 soldats sud-africains de la SADC sont morts et 20 autres blessés dans l'Est. Mardi, l'une des bases de la force régionale a été visée par une attaque à Sake, à une 20aine de kilomètres à l'ouest de Goma, où des détonations d'armes lourdes ont été entendues. À Goma, le récit d'Héritier Baraka.
C'est un communiqué de l'armée sud-africaine publié ce mercredi qui a confirmé l'attaque de la base de Sake à l'ouest de la ville de Goma. Au cours de cet incident, 2 soldats sud-africains sont morts et 20 autres ont été blessés. L'armée sud-africaine ne dit rien à ce stade si les auteurs de cette attaque. Sake est considéré comme le dernier verrou pour atteindre la ville de Goma. L'armée congolaise, appuyée par les forces de sa MIR-RDC, fait face dans cette zone aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui occupent des positions stratégiques sur les hauteurs de Sake. Mardi, des détonations d'armes lourdes ont été attendues par les habitants de la localité. Depuis l'arrivée en décembre 2023 des troupes de la communauté de développement d'Afrique australe, au moins 5 militaires de cette force ont été tués et 13 blessés dans des combats qui ont eu lieu contre les rebelles du M23. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et c'est dans ce contexte que la première ministre Judith Suminwa est arrivée ce mercredi à Goma, capitale du Nord Kivu. C'est son premier déplacement dans cette province en proie aux violences depuis 3 décennies. Une visite pour démontrer à la population locale, surtout aux femmes, qu'elles ne sont pas abandonnées. Ce déplacement est aussi le premier d'un haut responsable congolais depuis les élections de décembre 2023 dans cette ville de l'Est, ville sous la menace des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Une augmentation des cas de torture au Congo-Brazzaville, c'est ce qu'indique dans un rapport le CAD, le Centre d'Action pour le Développement. Cette ONG congolaise de défense des droits humains observe que les cas de torture sont passés de 13 durant les 4 premiers mois de 2023 à 122 pendant la même période cette année, situation qu'elle juge préoccupante. Le 29 juin, les Mauritaniens sont appelés aux urnes pour la présidentielle. Toute la semaine, nous donnons la parole au directeur de campagne et porte-parole des 7 candidats en lice. Aujourd'hui, c'est Abdalaï Kebd, l'un des porte-parole du candidat Mohamed Ould Razouani pour le camp du président sortant qui a remporté largement les dernières élections législatives. La priorité des priorités de l'actuel chef de l'État, ce sera la jeunesse.
Il a déclaré que son mandat sera le mandat de la jeunesse. C'est une question de légitimité démocratique. C'est aussi une question stratégique. C'est comme ça qu'on garantit finalement l'avenir. Il va lancer la création d'une grande agence nationale à l'image de ce qu'on appelle ici l'agence Taazur vis-à-vis des plus vulnérables, qui va coordonner l'ensemble des efforts effectivement transversaux dans l'action du gouvernement sur la formation, sur l'emploi, sur l'éducation, le financement des petites et moyennes entreprises, en ayant en perspective les jeunes. Là, on parle d'une intensification. On parle de regrouper cette ensemble d'interventions, de lui donner de la cohérence et de la synergie, des gains aussi certainement de productivité dans la mise en œuvre de ces politiques, mais surtout de l'efficience et de l'efficacité quant au résultat final. Et je pense que précisément sur les acquis du premier mandat, il y a des atouts réels sur lesquels on va effectivement pouvoir construire. Si nous améliorons, et nous le ferons, l'offre locale, encore une fois, en termes de formation, en termes d'emploi, tout ça, je crois, concourra à donner à la jeunesse mauritanienne sur les 5 prochaines années une possibilité de projection. Ça fera baisser l'envie que pourraient avoir certains d'aller chercher des opportunités ailleurs.
Abdalaï Kebd, l'un des porte-parole du candidat Mohamed Ould Razouani, propos recueillis par Léa Breuil. Et puis en Guinée, le jugement des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009, mis en délibéré le 31 juillet prochain, annonce faite ce mercredi par le président du tribunal, à l'issue des dernières plaidoiries et ultimes prises de parole des différents accusés, dont le capitaine Moussa Dadis Camara au pouvoir à l'époque des faits. Fin mai, le procureur avait requis la réclusion criminelle à perpétuité contre lui et 6 autres accusés, ainsi que la requalification des faits en crime contre l'humanité. L'association des médias en ligne du Tchad s'inquiète de la multiplication ces derniers mois de fausses pages diffusant des informations trompeuses sur les réseaux sociaux. Et la MET demande donc aux autorités de faire le ménage. La propagation de fausses nouvelles a encore été très importante la semaine dernière, au moment de l'explosion du dépôt de munitions de Goudji N'Djamena, note un communiqué de la MET. Le président de cette organisation, regroupant une 30aine de titres, Bello Bakary Mana, également directeur de publication de Yal Tchad, en appelle donc à la responsabilité de la HAMA, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel.
Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des journalistes et qui balancent toutes sortes d'informations sur la toile. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas qui est derrière, où est-ce qu'ils sont hébergés. Probablement, il y a des gens qui sont derrière et qui véhiculent toutes sortes d'informations qui sont vraiment, vraiment tendancieuses. S'il y a des individus qui profitent de cela pour faire de la politique, ça n'engage absolument pas la MET. Et il semble qu'il y a des gens peut-être qui n'aiment pas beaucoup la liberté de la presse en ligne et qui essayent de jeter du discrédit en profitant, bien sûr, des fausses pages. Ce communiqué, c'est vraiment un communiqué de clarification. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a appelé la HAMA à prendre ses responsabilités. Nous, en tant qu'AMET, on a pris le devant pour clarifier les choses, parler de l'enjeu de l'information. On est prêt à accompagner la HAMA pour l'aider à nettoyer. Mais tout ce qui véhicule ces fausses informations, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient à l'intérieur du pays.
Propos recueillis par François Mazet. Bangui, la capitale centrafricaine, est la ville la plus chère d'Afrique pour les travailleurs étrangers. C'est la conclusion du rapport annuel de Mercer. Ce cabinet de conseil américain mesure le coût de la vie dans plus de 220 villes sur les 5 continents. Les précisions de Guillaume Fabry.
Logement, transport, nourriture, divertissement. Le cabinet Mercer se base sur un panier de plus de 200 biens de consommation pour mesurer l'évolution du coût de la vie. En Afrique, Bangui, Djibouti et N'Djamena occupent la tête du classement des villes les plus chères, comme l'année dernière. Mais l'augmentation des prix la plus marquée entre 2023 et 2024 concerne Accra, Addis Abeba et Le Caire. L'inflation en est la principale raison selon Mercer. À l'autre bout du spectre, Abuja et Lagos sont les villes les moins chères pour les travailleurs étrangers parmi toutes celles étudiées dans ce classement. Si le Nigeria connaît une inflation galopante, la valeur du Naira a chuté face au dollar, ce qui bénéficie aux travailleurs internationaux payés en devises étrangères. Le rapport du cabinet américain rappelle que l'instabilité géopolitique et les conflits locaux affectent directement le coût de la vie dans les grandes villes en générant de nouvelles dépenses pour le logement par exemple.
En précision signée Guillaume Fabry. Et puis au Sénégal, la baisse des prix sur des produits de première nécessité comme le sucre, le riz, l'huile ou encore le pain est effective depuis lundi. Des opérations de contrôle ont commencé ce mercredi à Dakar. Une centaine d'agents du ministère du Commerce ainsi que des volontaires ont sillonné les boutiques pour vérifier que les nouveaux prix sont bien respectés. Reportage Juliette Dubois.
Pour le démarrage des opérations de contrôle, le chef du service régional du commerce, Amadou Toubanyan, s'est déplacé sur le terrain. Dans cette petite boutique du quartier de la Médina, il interroge le responsable sur ses prix. Le boutiquier, Antoine Moustapha Sen, est en règle pour le sucre à 600 francs le kilo.
Je viens d'arriver hier. Le moment que j'ai venu aussi, mon patron m'avait déjà averti à propos des nouveaux prix-là. Avec les produits qu'on a décidé pour diminuer les prix.
La centaine d'agents de la direction régionale du commerce vérifie également que les boutiquiers achètent au juste prix.
Vous lui faites une convocation pour présenter ses factures d'achat.
Ils ont le soutien des forces de l'ordre pour ces opérations.
Aujourd'hui, on a les forces de l'ordre qui sont en alerte. Et ce matin, la gendarmerie de l'environnement donc, a informé d'une faction donc, en alerte pour pouvoir intervenir à tout moment s'il y a donc des irrégularités.
Un volontaire de la consommation, Abdoulaye Texera, placarde les prix sur des affiches dans tous les commerces visités. Son rôle, faire des signalements en cas de prix non conforme.
On a une application sur le téléphone qui s'appelle Ndjeki. On a enregistré tous les boutiques, on a fait un recensement avant de descendre sur la terre. On a des QR codes à installer sur les boutiques. On va signaler. Après, les chefs de service vont réagir.
L'application Ndjeki, les prix en Wolof, est aussi accessible pour les clients. Les amendes en cas d'infraction pour les commerçants peuvent aller de 100 000 à 200 millions de francs CFA. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le personnel de l'Université des Comores, enseignant comme administrateur, annonce une grève illimitée à compter de ce jeudi 27 juin, en raison notamment de 2 mois de salaire non perçus. Les deux syndicats à l'origine de cet appel demandent également des garanties sur les paiements en septembre 2024. Cette grève qui menace la fin d'année académique avec la suspension des examens et des délibérations s'inscrit dans un contexte déjà difficile pour l'Université des Comores, qui est confrontée à de nombreux problèmes, notamment des difficultés financières. Du sport et une médaille d'or pour Djibouti, ce n'est pas si fréquent. Au championnat d'Afrique d'athlétisme, Ismaël Ibrahim l'a fait ce mercredi à Douala au Cameroun en remportant le 5000 mètres. Une grande joie pour cet athlète de 27 ans qui s'entraîne à Addis Abeba et qui voit dans ce succès la récompense de la persévérance à l'approche des JO.
Ah ouais, champion d'Afrique, j'ai attendu 10 ans et voilà aujourd'hui. Ah ouais, c'était très bien. C'était un peu chaud, il y avait un peu de la pluie, comme ça. Mais regardez le dernier tour ou bien les derniers 800 mètres. Moi, j'étais très fort, très préparé. Et voilà, finalement, j'ai gagné la course. Après un mois, je pars au champion et les Jeux Olympiques, et les 5000 mètres, Paris. Et j'espère là-bas aussi des médailles. Aujourd'hui, j'ai trouvé une médaille d'or des champions d'Afrique. Je suis vraiment très très content. Et peut-être demain, champion olympique. Pourquoi pas?
Voilà la joie d'Ismaïl Ibrahim, vainqueur du 5000 mètres ce mercredi au championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun, à Douala au Cameroun, propos recueillis par notre envoyé spécial Christophe Jousset. Et puis un mot de football en Côte d'Ivoire avec le retour du club historique de l'Africa Sport en Ligue 1 la saison prochaine. Ce club, l'un des plus titrés du pays avec 18 championnats au tableau, va retrouver l'élite après 3 saisons à l'échelon inférieur. Un retour dans la cour des grands grâce notamment à la défaite de son rival Liska ce mercredi à Yamoussoukro, 1-0. Voilà, suite de l'info africaine dans un court instant, mais d'abord un petit rappel de l'actualité dans le reste du monde. Le fondateur de Wikileaks et lanceur d'alerte Julian Assange est rentré en Australie, profité de sa liberté retrouvée après un accord avec la justice américaine qui a mis fin à une saga judiciaire de près de 14 ans. Plus tôt dans la journée, le lanceur d'alerte avait été libéré au terme d'une rapide audience au tribunal fédéral américain de Saipan, dans les îles Mariannes du Nord. La cour d'appel de Paris a validé le mandat d'arrêt visant le président syrien Bachar al-Assad, accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques meurtrières d'août 2013, imputé au régime, une décision historique selon les parties civiles. Selon plusieurs sources proches du dossier, il s'agit du premier mandat d'arrêt émis par une juridiction étrangère contre un chef d'État en exercice. La chambre de l'instruction a ainsi rejeté la requête du parquet national antiterroriste qui demandait l'annulation du mandat au motif de l'immunité personnelle des présidents en exercice. Et puis l'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements meurtriers dans la bande de Gaza et livré des combats au Hamas à Rafah. À l'heure où les États-Unis préviennent Israël qu'une guerre contre le Hezbollah libanais pourrait provoquer un conflit régional, ce soir, le chef des affaires humanitaires avertit, des Nations Unies avertit que la propagation au Liban de la guerre d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza serait potentiellement apocalyptique. Et on s'intéresse maintenant à un phénomène aux conséquences désastreuses pour les entreprises publiques et le secteur de l'économie informelle au Congo-Brazzaville. Il s'agit des pénuries d'électricité à Pointe-Noire et à Brazzaville, la capitale. Malgré les investissements engagés au cours des 2 dernières décennies, le courant se fait toujours rare dans les 2 grandes villes du pays. Les pénuries d'électricité au Congo-Brazzaville, un dossier signé Loïcia Martial.
Dans un jardin public du centre de Brazzaville, cet infographiste qui préfère garder l'anonymat a son regard un peu perdu. Il tient entre ses mains son ordinateur qu'il n'a pas pu allumer depuis 2 jours faute de courant.
Ça nous dérange parce qu'il y a des foyers qui vivent de l'électricité. Si aujourd'hui, en tant qu'infographe, mon ordinateur n'est pas chargé, je ne peux pas travailler. Si mon téléphone n'est pas chargé, je ne peux pas faire ma com. Je ne peux pas envoyer mes dossiers chez un client qui me demande de lui faire une conception. Ça peut être en Afrique ou ailleurs.
Les jeunes Congolais qui exercent de petites activités se retrouvent pénalisés par les coupures répétées d'électricité. Mermance Babunga, secrétaire exécutif de l'Observatoire Congolais des droits des consommateurs, évalue leur manque à gagner.
Nous avons évalué 13 branches d'activité tenues particulièrement par les jeunes qui sont dans le secteur informel et les pertes vont de 50 000 francs CFA à 700 000 francs CFA que ces acteurs dépensent pour pallier aux coupures d'électricité en achetant du carburant et en entretenant les groupes électrogènes. C'est énorme.
La situation est paradoxale. Le pays a injecté des milliards de francs CFA pour construire des unités de production de courant. Ces 20 dernières années notamment, c'est le cas d'une centrale de plus de 470 MW alimentée par le gaz. Brice Makosso de la coalition Publiez ce que vous payez Congo s'interroge sur les vrais résultats de ces investissements.
Quelle est la qualité de l'électricité que nous avons en lien avec tous les investissements qui ont été réalisés dans le domaine? Il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces investissements et quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? La question de l'accès à l'électricité devient un vrai problème.
Selon une source à la Société nationale Énergie électrique du Congo, les coupures actuelles sont dues au faible niveau d'approvisionnement de la centrale électrique en gaz, alors qu'elle produit 72% du courant consommé dans le pays. Le Congo ne doit pas miser sur les centrales électriques, mais plutôt sur les barrages hydroélectriques, affirme notre source, pour avoir une électricité pérenne et propre. Loïcia Martial, Brazzaville.
23h54 à Brazzaville. écoutez, place à la musique dans Afrique Soir avec aujourd'hui le collectif ghanéen Super Jazz Club qui vient de sortir Monochrome Radio, un nouveau 5 titres, un disque qui mélange le R&B des années 2000 avec le hip-hop d'Accra et les fioritures électroniques qui les caractérisent. À découvrir sans tarder avec la complicité de Pierre Vallée.
Au départ, Super Jazz Club, ce sont 9 amis, tous un peu artistes. Il y a des musiciens, des designers, des couturiers, des vidéastes. Chacun s'active dans son coin sans imaginer que leur création puisse intéresser qui que ce soit. Alors, quand ils prennent conscience de leur solitude, ils décident de s'associer pour faire de la musique ensemble et inventer ce club sans contrainte, sans limite artistique, au sein duquel tout est permis. Comme ils le disent eux-mêmes, on s'intéresse à tout ce qui n'est pas conventionnel. Every time it's hitting me like a wave, sweatless feelings got me acting the way. I can't even hide it's all on my face. Give me something I can't explain. Pour Super Jazz Club, l'aventure démarre en 2019. Ils connaissent le succès dès la sortie de leur premier morceau « Couple Black Kids », ce qui leur permet de tourner dans le monde entier et d'être programmés à l'affiche des plus gros festivals européens. Pour autant, le Super Jazz Club garde le cap et ne prend pas la grosse tête. Il se définit toujours comme un refuge pour les marginaux de tout poil. Sur le morceau « Cameras », il fustige le machisme et les règles qui séparent le masculin du féminin. Une position courageuse peu répandue dans les rues d'Accra. Musicalement, Super Jazz Club cherche d'abord à se distinguer de l'afrobeats omniprésent en Afrique de l'Ouest. Sur des tempos lents, leur musique est un mélange de R&B, de hip-hop, de reggae, de soul, avec une touche synthétique jouée par des musiciens biberonnés au highlife. Leur nouveau disque, Monochrome Radio, vient de sortir. Une synthèse d'ambiance panafricaine, sorte de playlist idéale qu'ils aimeraient entendre à la radio. Right, turn up the place, left, right, turn up the place, left, right, turn up the place, left, right, turn up the place. All on your own tonight. Said you moved on this time. We could have been something right. We tried, will you give it up tonight? Give it up tonight, give it up tonight. And we have something right. Give it up tonight, give it up tonight. I said it's nothing wrong.
Et merci à Pierre Vallée pour cette découverte. C'est d'ailleurs avec ce titre off du collectif ghanéen Super Jazz Club que s'achève cette dernière édition d'Afrique Soir réalisée par Wafano, rédacteur en chef Esdras Nikouman, attaché d'édition Simon Buil-Baudin. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale. À suivre, un nouveau journal consacré à l'actualité dans le reste du monde, très largement consacré à l'actualité dans le reste du monde. C'est dans environ 2 minutes.
RFI, la sélection du mois.
Clarica.
Sur la plage de Trégastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sur le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manquer à quelqu'un quelque part. I am
trying. Leila Makkala. Buzz Buzz. From a seed planted in the womb, mankind has lived, graduating to life, to live. Nataraye, Namadaye, Masuka. Kumasi. Nataraye,
Namadaye, Masuka. RFI Musique. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
améliorer la santé maternelle et infantile au Cameroun, reportage de Charlie Dupio.
Vendredi,
questions de femmes, troubles et maladies de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Lily Cross et Thierry Chazelle forment un couple à la ville, duo sur scène, et signent des chansons populaires ciselées, bucoliques, souvent empreintes de la brune marine de la Bretagne d'adoption, nourries de bienveillance et de chaleur humaine. Titre de leur nouvel album aux couleurs pop et folk, Soyez heureux.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.